Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Le point sur la guerre en Ukraine, évidemment, on l'a vu au cours des dernières heures, des attaques de l'armée russe dans le sud du pays, des frappes de missiles au cours de la nuit. On va regarder tout ça avec notre journaliste là-bas, Tetiana Ogarkova. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Ben, peut-être d'abord faire une mise à jour de ce qui se passe dans le sud du pays, là, des missiles qui ont été lancés par les Russes durant la nuit.
Oui, tout à fait. Il y avait quelques frappes de missiles à Zaporijjia, déjà causant un mort confirmé, des autres à confirmer après dans les heures qui viennent. Malheureusement, les missiles ont survolé tout à fait à côté de la station nucléaire du sud de l'Ukraine. C'est un accident grave, c'est-à-dire que ça nous préoccupe comme hier, tout à fait à côté de Khmelnytsky, à l'ouest de pays. Pareil, des missiles étaient tout près de la station nucléaire. Les craintes sont énormes. Aujourd'hui, on marque justement l'anniversaire, donc si on peut dire comme ça, de l'explosion de Tchernobyl. Donc, on est tout à fait conscient du danger que ça puisse représenter pour le pays. Donc, cette attaque au sud de l'Ukraine continue. L'armée russe essaie de s'approcher de Zaporijjia, en fait, mais les experts militaires et l'état-major ukrainien nous rassurent en disant que une erreur très grave de l'armée russe, puisque en s'étendant leurs troupes au sud et à l'est, ils sont beaucoup plus facile à stopper, c'est-à-dire à être détruit par l'armée ukrainienne. Donc, en tout cas, il nous assure que ça ne représente pas un véritable danger. On voit l'armée russe bousculer pendant déjà plus d'une semaine, en fait, à l'est. Donc, ils n'arrivent pas à avancer plus qu'un kilomètre par jour. Donc, dans certains endroits, ça peut être 10 kilomètres en une semaine. Ce n'est pas du tout cette attaque spectaculaire qu'on attendait. Et on croit, on espère qu'on est à un point de tournant, en fait, de cette guerre, en fait.
Bon, il y a un élément important, ce sont les, une quarantaine de ministres de la Défense qui se réunissent aujourd'hui et à l'ordre du jour, notamment, augmenter l'envoi d'armes aux Ukrainiens.
Justement, voilà, ça se passe dans une ville allemande de Ramstein. On regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe là-bas. Et justement, il y a 40 ministres de défense, pas seulement des pays de l'OTAN, mais bien d'autres pays. La question ukrainienne est au centre de cette réunion. On attend, bien sûr, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus d'armes. Et donc, justement, ce point de non-retour dans cette guerre, on le sent. Vu de l'Ukraine, c'est vraiment un point de non-retour, puisque après les déclarations très explicite du ministre de la Défense des États-Unis, Austin, qui a dit justement que le résultat attendu par les États-Unis, c'est la victoire de l'Ukraine. Donc, on n'a plus de peur de ce mot « victoire » de l'Ukraine dans cette guerre. Donc, on attend des actions décisives pour que l'armée ukrainienne soit renforcée au point de pouvoir chasser justement l'armée russe au-delà de frontières ukrainiennes.
Avez-vous des nouvelles de la situation à Mariupol?
La situation là est dramatique. On a découvert la troisième fosse commune à côté de Mariupol. Il s'agit bien d'un village qui s'appelle la Vieille Crimée. C'est à 5 km de Mariupol. Selon les images satellites, on voit une tombe ou une fossée commune, c'est-à-dire des gens qui ont été enterrés là-bas. Les frappes aériennes contre l'usine Azovstal continuent avec les tentatives de l'armée russe de faire un assaut bien prudemment, puisque c'est dangereux pour eux. Mais en fait, ça s'avère mensonger, en fait, les déclarations de Vladimir Poutine, que d'arrêter les tentatives d'éliminer les derniers défenseurs de Mariupol. À ce moment-là, on constate justement l'intensification de frappes aériennes et même les tentatives d'assaut au sol, en fait, malheureusement.
Merci beaucoup, Tetiana. On va se reparler demain. Elle est toujours, vous le savez, en banlieue de la capitale. On peut peut-être ajouter, évidemment, les propos du ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, qui a dit essentiellement, ben, un, quand l'OTAN donne des armes, c'est un geste de provocation. Et quand on parle de provocation, il faut considérer que le danger d'une troisième guerre mondiale est tout à fait réel, que ce serait, disons, de la folie de ne pas le considérer de la part des alliés. Et ces propos qui ont fait le tour du monde hier, là, c'est devenu comme une manchette, ont été rapidement, contrés par un autre discours qui est de dire ce que les Russes font, c'est une opération de propagande, c'est de faire peur, puis de dire si vous continuez à armer les Ukrainiens, ben puis là on parle de budget additionnel, strictement les Américains parlent d'une aide militaire de à peu près 700 millions. Alors, d'un côté, guerre de mots, sur le terrain, plus d'armes à venir pour les Ukrainiens. Et comme on le voit, rencontre importante aujourd'hui de ministre de la Défense. Voilà pour la situation concernant l'Ukraine. En parallèle, je veux vous parler aussi de la COVID ce matin, mais on en a glissé un mot hier avec Jean-François Lépine sur la situation en Chine. D'abord, les quelques cas qui ont été détectés à Pékin, Beijing, ont amené des opérations de confinement extrêmement sévères. On l'a vu à Shanghai, ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens, là, c'est pas vous restez chez vous puis vous sortez un peu. Non, vous êtes enfermés puis on va vous porter de la nourriture et le parti vous surveille. Et ce qu'on voit, c'est non seulement une augmentation du nombre de cas, mais une inquiétude. Et ça s'est senti hier sur les marchés boursiers, je reviendrai, sur les chaînes d'approvisionnement. Il faut dire, par contre, que les villes portuaires continuent de bien fonctionner, que Beijing n'est pas la capitale économique qu'on pourrait comparer avec Shanghai, mais quand même, il y a une inquiétude et de voir encore une fois une chaîne d'approvisionnement être affectée et avoir un impact réel sur l'économie mondiale. Parce qu'il y a un taux de vaccination pas très élevé, puis ils ont peur, évidemment, que la contamination entraîne, si vous voulez, des conséquences encore plus graves. Donc, il y a déjà des mesures de confinement très strictes qui ont été prises. Et puis également, ce qu'on remarque pour les gens qui suivent ça, il y a une certaine stabilisation au Québec, mais ce qu'on a remarqué, c'est que malgré la vaccination, au Canada, on estime qu'une infection sur 10 actuellement, c'est en fait une réinfection. Donc, ce sont des gens qui, malgré qu'ils ont déjà eu la COVID, malgré le fait qu'ils soient vaccinés, sont, encore une fois, infectés. Dans la plupart des cas, les symptômes sont mineurs, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différents variants continuent de faire des dommages. Quand vous n'êtes pas vacciné, c'est pire, toutes les études le montrent, mais même on le voit chez des gens qui sont adéquatement vaccinés, que le niveau de réinfection demeure quand même assez élevé. On va jeter un coup d'œil sur les autres manchettes ce matin. D'abord, tableau de la situation dans les salles d'urgence au Québec, c'est dans Le Devoir. Le temps d'attente en moyenne sur une civière, là, on ne parle pas de gens qui attendent pour être vus. On parle de gens qui sont installés sur des lits, sur des civières à l'urgence et qu'on ne peut pas monter sur les étages faute de personnel. Ben, c'est 17 heures, selon les chiffres. Et on sait que l'objectif, c'était de ramener ça à 12 heures. Donc, on est loin de ça. Et dans 23 hôpitaux du Québec, la durée moyenne de séjour est de plus de 20 heures. Puis même à l'hôpital du Suroy, ça peut aller jusqu'à 32 heures et pas loin de 33 heures. 33 heures à être couché à l'urgence parce qu'on peut pas te monter. Ça s'ajoute à tout ce qu'on répète depuis le début, c'est-à-dire une pression qui est exercée sur le réseau de la santé, spécifiquement les salles d'urgence, parce que c'est, pour bien des gens encore, la porte d'entrée. Puis quand on parle de ces patients-là, on parle de gens qui ont besoin d'être hospitalisés, là. C'est pas quelqu'un qui attend assis à l'urgence, c'est quelqu'un qui a été vu, qui est hospitalisé, mais qu'on peut pas, malheureusement, transférer à l'étage et donc libérer la salle d'urgence et soigner de façon plus adéquate la personne. Alors, quiconque travaille dans les soins d'urgence au Québec nous répète ça depuis des mois, puis la pandémie a joué, bien sûr, mais on est toujours sous pression. Puis on vit des situations comme on voit, par exemple, dans le temps des fêtes. Puis il y a l'influenza qui est un facteur, puis les urgences normales. Donc, je regarde les propos de la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec qui dit que c'est énorme, c'est le signal qu'il n'y a pas de lit dans les hôpitaux pour les patients. Ils traînent à l'urgence plus longtemps qu'on le voudrait. Ça, c'est la réalité. Bon, grosse nouvelle hier, alors que le grand patron de Tesla, Elon Musk, achète Twitter pour 44 milliards, 300 fois les profits. Il a dit d'abord qu'il avait l'intention de rendre ça privé. Puis là, les employés de Twitter sont inquiets, ça va fonctionner comment? Et il promet de transformer cette plateforme, cette application, en paradis de la liberté, donc que ce soit moins encadré, plus de transparence et plus de liberté. C'est pourtant le même gars qui a tenu des propos toujours assez, disons, à la limite là, de la légalité. Je me souviens, entre autres, quand il avait comparé, pendant la manif à Ottawa, tu sais, ce qui se passait, comparé Justin Trudeau à Adolf Hitler, puis bon, toujours dans le délire. Alors, la patente va lui appartenir. Et qu'est-ce qu'il a dit hier? Il a dit, un, qu'il était pour rendre ça plus transparent. Deux, plus de liberté. Trois, il souhaite que les gens qui ont beaucoup d'abonnés participent plus et qu'on soit en mesure aussi de bloquer tout ce qui est la cochonnerie qu'on retrouve sur Twitter, des messages qui nous arrivent, qu'on n'a pas sollicités. Bref, rendre public les fameux codes et avoir un algorithme plus performant. Alors ça, c'est l'engagement qu'il prend. Est-ce qu'il va faire de l'argent avec ça? Bonne question, mais c'est pas banal, là. 44 milliards pour ce qui est de la transaction. Maintenant, on peut parler ce matin de ce qui se passe sur les marchés boursiers. Je le disais avec la Chine hier, mais les placements vont pas très bien. Quand vous regardez votre portefeuille, c'est sûr que les chutes sont importantes, et ça dure depuis plusieurs jours, il y a des petits rebonds. Hier, à la Banque du Canada, on a rappelé qu'au mois de juin, probablement qu'on va encore une fois augmenter le taux directeur. Bref, les taux d'intérêt vont monter. Et Pierre-Yves le disait hier, on a pas mal les ingrédients d'une récession. Et tout ça arrive au moment où Québec annonce des missions pour aller trouver de la main-d'œuvre sur la planète. On a besoin, dans tous les coins du Québec, puis dans à peu près tous les secteurs de l'activité économique, de travailleurs. Et on n'en a pas assez au Québec. Et même la mission qu'on annonce, ce ne sera pas suffisant pour combler les postes qui sont maintenant disponibles. Aussi, dans la presse ce matin, situation des places en garderie. Québec qui a raté sa cible, et là, ça comprend les CPE, ça comprend aussi des garderies privées subventionnées. Il y a eu des fermetures de garderies en milieu familial. Et donc, la liste d'attente pour trouver une place dans le réseau s'allonge. Le ministre dit que, bon, on n'est pas dans l'atteinte de l'objectif, mais quand même, il y a eu une amélioration. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il y a une affaire bien bizarre. Jean de Sorel, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Radio-Canada qui nous parle du maire, M. Péloquin, qui est un personnage en soi, qui fait l'objet d'une enquête de la police, de la Sûreté du Québec puis de la commission municipale. Il a planté un micro dans le bureau de son fonctionnaire numéro 1, le greffier. En fait, il a mis une caméra couchée. Il n'a pas pris l'image, il a pris le son, nous dit Thomas Gerbet. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Et il veut bâtir un dossier, toffer une preuve contre son greffier. Je ne sais pas de quoi on parle, mais la Sûreté du Québec enquête là-dessus, d'espionner les gens comme ça. Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des gestes illégaux qui étaient posés? Est-ce qu'il y avait des raisons de se méfier? Pourquoi? Le maire refuse de commenter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un employé de la ville qui a été espionné comme ça, puis c'est le greffier en question. Alors, vous trouverez ça ce matin sur Radio-Canada. Et ça fait pas mal le tour. On va parler avec nos chefs également, deux chefs ce matin, Fred Morin et également Colombe, au sujet de ce qui... Colombe-Saint-Pierre, là. Appelons ça cet effort des restaurateurs pour rehausser la gastronomie québécoise. Et c'est toute la politique de l'achat local, de l'encouragement des producteurs locaux. Et ils ont lancé ce collectif. On sait que les restaurateurs ont dû s'ajuster pendant la crise, pendant la pandémie. Et ils veulent, ils sont une trentaine, là, à pouvoir comme ça développer des approches pour... et c'est payant, la gastronomie, c'est payant pour l'économie du Québec. Donc, on va voir un peu comment ces chefs veulent faire progresser l'achat local dans le domaine de la restauration.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Tous les jours ou presque, on parle de pénurie de main-d'œuvre dans tous les coins du Québec, dans à peu près tous les secteurs d'activité. Et Québec lance encore une fois ses missions de recrutement à l'étranger. L'objectif, c'est d'amener ici 3 000 travailleurs dans la prochaine année. Le ministre du Travail est avec nous, Jean Boulay. Monsieur Boulay, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand. Comment ça va?
Bien, bien, bien. M. Boulay, première question. Il y a combien de postes disponibles au Québec? Il y a combien d'employeurs là, qui cherchent des travailleurs?
Si on se fie, bien sûr, à la dernière étude sur les postes vacants, c'est une étude trimestrielle qui est publiée par Statistique Canada, il y a à peu près 238 000 postes vacants au Québec actuellement.
Et vous cherchez 3 000 travailleurs étrangers pour une année. C'est pas beaucoup, finalement.
En fait, il faut tenir compte de toutes les solutions qu'on a mises en place. Souvenez-vous, le 30 novembre dernier, j'ai annoncé avec le premier ministre du Québec une vaste opération main-d'œuvre. Il y a énormément de programmes de formation, des bourses Perspectives Québec pour étudier... par exemple, au niveau collégial, recevoir 1500 $ par session complétée, 2500 $ par session complétée à l'université quand c'est dans des secteurs où il y a des déficits de main-d'œuvre importants. On a des programmes de requalification, des programmes d'accompagnement des entreprises pour augmenter leur productivité. Et l'immigration, c'est une des solutions. Et les missions de recrutement à l'échelle internationale, juxtapose au programme des travailleurs étrangers temporaires et d'autres programmes qui nous permettent d'aller chercher des travailleurs qualifiés francophones.
Non, ça je comprends, mais ce que ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est que les programmes, est-ce que vraiment ça rattrape l'espèce de courbe qu'on voit de vieillissement de la population et du départ à la retraite, ou encore carrément donc des pénuries de main-d'œuvre? Êtes-vous capable de rattraper le temps?
Le vieillissement de la population, c'est un phénomène démographique qui est anticipé depuis, vous le savez, une quinzaine d'années, qui va se poursuivre. On va connaître un creux historique en 2030. C'est là, pendant cette année-là, où il y aura le moins de monde âgé de 15 à 64 ans au Québec. Donc, il faut additionner les solutions. Il faut être efficace, il faut mettre en place des programmes novateurs, mais on serait candide de dire on va combler tous les postes vacants demain. On a un taux d'emploi à 77,6% chez les 15 à 64 ans, qui est le plus élevé au Canada. Ça, c'est un témoignage assez éloquent de l'efficacité de nos mesures pour combattre la pénurie de main-d'œuvre. Il y a 190 000 chômeurs au Québec encore, mais il faut s'assurer qu'il y ait le profil pour répondre aux besoins, qu'il y ait une adéquation entre ce que ces chômeurs-là peuvent faire et les besoins de nos entreprises. Mais on continue, puis je pense que ça donne des résultats, mais c'est un défi de société. Ça repose pas uniquement sur les épaules du gouvernement.
Là, vous cherchez à recruter 3 000 travailleurs, principalement dans le monde francophone. Est-ce que vous cherchez spécifiquement des travailleurs qualifiés dans tel ou tel domaine, ou si c'est tellement demandant là, qu'on prend tout ce qui passe?
Non. On a des secteurs prioritaires. dans les services publics essentiels notamment. On va chercher des personnes du domaine de la santé, particulièrement des infirmières, infirmiers, l'éducation, des enseignants, les services de garde à la petite enfance. Puis dans le domaine privé, ce qui est le plus névralgique, c'est les technologies de l'information, la construction puis le génie. Donc, on va mettre énormément d'accent pour recruter des travailleurs qualifiés dans ces domaines-là, ce qui n'exclut pas quand même des secteurs qui ont été fragilisés par la pandémie, la restauration, l'hébergement, l'hôtellerie, mais on a quand même des priorités, mais on n'exclut aucun secteur non plus.
Okay.
Le manufacturier, entre autres, aussi, qui va faire l'objet d'une mission qui est dédiée particulièrement aux manufacturiers.
Est-ce que vous avez des enjeux avec les ordres professionnels? Je pense aux infirmières, là. Une infirmière que vous allez chercher dans le Maghreb, est-ce qu'elle est prête à commencer à travailler tout de suite?
Bon, on a travaillé beaucoup à un programme de reconnaissance des compétences. C'est un enjeu au Québec. Puis j'ai travaillé avec le Conseil interprofessionnel du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers relève de ce conseil-là. Et on va s'assurer que les infirmières, par exemple, qui ont besoin de formation d'appoint au Québec, puissent les compléter rapidement, puissent bénéficier d'une allocation de participation à ces formations-là de 500 $ par semaine et puissent, jusqu'à concurrence de 20 heures par semaine, faire un travail, par exemple, de préposé aux bénéficiaires. Donc, on a mis en place, on va les accueillir, on va s'assurer qui puissent bénéficier à la société québécoise le plus rapidement possible et être en mesure de travailler comme infirmière aussi, dès que l'ordre des infirmières, infirmiers. Oui, on a travaillé avec eux autres et ça va bien.
Le taux de rétention s'établit à quel pourcentage environ? Autrement dit, quelqu'un qui commence au Québec, un travailleur étranger comme ça, il en reste combien après 3 ans?
Bon, le taux de rétention... Moi, je pense, M. Arcan, que ça passe par la régionalisation de l'immigration puis par la capacité de parler français. C'est certain que ce que je constate un peu, puis je dévie un peu de votre question, là, mais les personnes immigrantes qui sont chez nous depuis moins que 5 ans, il y a encore un taux de chômage qui a baissé, mais qui est encore élevé. Moi, je pense que d'accompagner les personnes immigrants temporaires dans nos régions francophones, on augmente beaucoup le taux de rétention. Mais ça varie d'une région à l'autre. Mais ça, c'est un des objectifs que j'ai en tête. Puis d'accroître notre capacité aussi pour les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers temporaires, toutes les personnes qui viennent au Québec, on veut qu'ils contribuent évidemment à ce qu'on peut faire puis qu'ils deviennent permanents là, parce que ces immigrants-là sont temporaires. Puis après 2 ans, par exemple, ils peuvent obtenir un certificat de sélection du Québec qu'on émet très rapidement. Puis après ça, ils sont en attente de la résidence permanente qui est donnée par Ottawa.
Bon, et c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que beaucoup de ces travailleurs-là, et je vais parler des travailleurs immigrants, peu importe le programme en question, mais arrivent au Québec, s'installent au Québec, dans certains cas font des enfants au Québec, et n'arrivent pas, ou ça prend une éternité dans la bureaucratie fédérale, là, à obtenir leur statut. Et ce sont des mois et des années d'attente.
Ça mérite profondément. Je partage votre préoccupation. J'en parle régulièrement à mon homologue à Ottawa, M. Fraser, que j'ai rencontré il y a quelques semaines à Montréal. C'est des délais non seulement inacceptables, mais intolérables. Avant d'avoir leur résidence permanente, ils doivent avoir le certificat de sélection du Québec. Puis on a 2 programmes qui donnent accès à ce certificat-là. Le programme d'expérience québécoise, le délai moyen pour émettre les certificats au Québec, 47 jours. Puis dans l'autre programme des travailleurs qualifiés, le délai moyen, 14 jours. Mais après ça, les personnes peuvent attendre 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi avant d'avoir leur résidence permanente, avant d'être admises comme citoyen canadien, et ça, c'est inacceptable. Puis bon, ils investissent à Ottawa des montants d'argent, ils embauchent des ressources, mais au Québec, ça nous nuit, puis il faut le dire, puis le dénoncer, puis mettre le plus de pression possible. Puis il y a des programmes, d'ailleurs, notamment des travailleurs étrangers temporaires, qu'on serait capable de gérer au Québec, qu'on serait capable de rapatrier, puis je suis convaincu qu'on serait plus efficace.
C'est parce qu'il y a minimalement deux enjeux, M. Boulay, que moi j'entends des auditeurs. Là, vous parlez de la main-d'œuvre temporaire, par exemple. Je pense au monde agricole, je pense à des entreprises qui ont un besoin maintenant précis et qui se font dire « Ouais, ben là, c'est pas tout à fait encore dans la machine ». Vous allez peut-être, ils vont arriver, mais trop tard. Il y a des délais, puis maintenant, il y a des gens qui veulent venir, mais qui n'ont pas envie de perdre 2-3 ans de leur vie, puis de se faire dire, ben là, vous êtes dans l'attente pour avoir un statut. Bref, la bureaucratie décourage pas mal de monde.
Ah, moi, ça me... Puis depuis notre élection, M. Arcan, je travaille beaucoup à réduire les délais, diminuer les coûts, puis éliminer la paperasserie puis la bureaucratie. Bon, on a négocié avec Ottawa des assouplissements. Vous vous référez au secteur agricole, c'est les travailleurs étrangers temporaires. On a réussi à mettre à peu près 285 emplois métiers dans ce qu'on appelle un traitement simplifié. Et là, les permis de travail vont avoir une durée de 3 ans au lieu d'une année. Il n'y aura plus de limite quant au nombre de travailleurs étrangers temporaires par établissement. Mais ça va être plus flexible, un peu moins long, moins coûteux, puis moins de paperasserie, là, parce que ça, le permis de travail va durer 3 ans au lieu d'une année. Mais c'est un enjeu constant. À tous les jours, je pense à ça. Puis à tous les jours, j'ai des témoignages d'entrepreneurs qui me disent « Jean, c'est trop long, c'est compliqué ». Mais bon, il faut continuer à mettre de la pression. Puis je le dis, ultimement, je pense que si on gérait ça au Québec, ça serait beaucoup mieux puis beaucoup plus rapide.
Parfait. Merci, M. Boulay. Bonne journée.
Merci, M.
Au revoir.
Bonne journée, à bientôt.
Jean Boulay est le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration aussi. Mais c'est vraiment un enjeu majeur. On parlait de ces emplois, mais régulièrement, j'ai des messages d'entrepreneurs qui disent, on a des postes, on a besoin de main-d'œuvre. Et ce qui se passe au fédéral, puis je ne sais pas, là, c'est même beau la COVID, là, mais regardez le temps. Encore ce matin, un reportage sur les délais concernant un passeport, le simple passeport. Si vous avez l'intention de voyager à l'extérieur du Canada dans les prochains mois, puis que vous n'avez pas de passeport ou que vous devez renouveler votre passeport, grouillez-vous parce que vous ne l'aurez pas. Les délais sont interminables. Et la même chose pour de la main-d'œuvre, les travailleurs étrangers, le temps que la machine soit en mesure de donner les autorisations, ben, il y a des entreprises québécoises qui, malheureusement, ne sont pas capables de fonctionner à 100% de leur capacité. Maintenant, chez nous, situation dans les urgences au Québec. Le Devoir nous donne le portrait des derniers mois. On s'y attendait, c'est-à-dire que le temps passé sur civière à l'urgence augmente. On est à presque 17 heures et même dans certains hôpitaux, c'est plus que ça. J'ai vu un hôpital à 32 heures. Ça, c'est le temps passé avant qu'on puisse vous hospitaliser, donc vous montez à l'étage, comme on dit. J'en parle avec Dr Bernard Mathieu, qui est urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il a été président aussi de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Dr Mathieu, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
J'imagine que vous n'êtes pas surpris, vous êtes sur le terrain, mais comment ça se fait que la durée moyenne augmente?
Bon, on voit que la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a de moins en moins de personnel dans le réseau de la santé, ce qui fait qu'il y a des lits fermés. J'avais regardé l'année dernière, on avait à Montréal seulement 1000 lits de fermés dans les hôpitaux de soins de courte durée. Et j'ai regardé la semaine dernière, on en avait encore 600 qui étaient fermés. Donc, vous voyez, ça, c'est le résultat d'un manque de personnel qui était vraiment intense, là. Alors ça, évidemment, ça nous coupe comme l'équivalent de 2 hôpitaux majeurs là qui sont comme disparus de notre réseau. Alors évidemment, qu'est-ce qui arrive, c'est que les patients, ils sont encore malades, ils ont encore besoin de soins, donc ils s'empilent à l'urgence parce que la fluidité est pas là.
C'est important, là. Les gens qu'on garde à l'urgence sur civière, ce sont des patients qui ont besoin d'être à l'hôpital, là.
Oui, c'est ça. En fait, si on regarde grosso modo à Montréal, la moitié des lits de civières d'urgence sont occupés par des patients qui attendent d'être à l'étage. Alors, si ces patients-là étaient à la place où ils sont supposés être, soit à l'étage, les urgences afficheraient des taux d'occupation en bas de 100%, ce qui est souhaitable, ce qui est la cible, en fait.
Mais je comprends là, qu'on a eu tout le phénomène COVID, puis le personnel oui. qui a quitté, bon, comme on l'a vu, là, on parlait 12, 15 000 travailleurs de la santé à un moment donné. Là. Oui. Mais jusqu'à quel point ce qu'on vit dans les salles d'urgence actuellement est tributaire de la COVID?
Ben écoutez, il y a une partie qui est évidemment tributaire de la COVID, mais comme vous le savez bien, avant la COVID, on avait aussi des débordements. En 2018, ça allait mieux. On avait à ce moment-là 4% des patients qui étaient sur civière plus que 48 heures dans les grosses urgences. En ce moment, c'est 10%. Alors, vous voyez qu'on a comme doublé en 4 ans le nombre de patients qui séjournent plus de 48 heures, alors qu'au contraire, la cible, c'est 0% de 24 heures. Alors, on est vraiment très, très loin de nos cibles. Et puis ça fait c'est le résultat d'un problème de congestion hospitalière, d'un problème, toujours le même problème aussi, de patients en fin de soins actifs qui restent dans les lits d'hôpitaux pendant une semaine, deux semaines, trois semaines pour avoir une place pour sortir de l'hôpital. Ça, c'est des vieux problèmes. C'était là avant la COVID et c'est encore là maintenant. Donc, ça n'a jamais été réglé.
C'est parce que si je résume un peu ce que vous me dites, là, dans le fond, on a des patients sur les étages qui, dans certains cas, devraient avoir quitté, mais on ne sait pas où les envoyer. On a des patients qui sont à l'urgence. On ne peut pas les monter parce qu'il manque de personnel. Puis il y a des lits qui sont occupés par des gens qui devraient s'en aller. Fait qu'on garde tout ce monde-là à l'urgence. Fait que ça déborde.
Oui, puis évidemment, il y a aussi le concept de coordination des étages. Vous savez, dans la plupart des hôpitaux, on travaille très fort à l'urgence pour que ça aille vite, mais dès que le patient monte sur les étages, bien, la pression, elle n'est plus là. Puis vous savez, un patient qui attend de sortir pour aller en CHSLD dans un étage, bien, il ne demande pas beaucoup de soins. Donc, tu sais, le personnel n'a pas nécessairement beaucoup d'incitatifs pour le sortir, puis en mettre un qui est lourd, qui a besoin de beaucoup de soins aigus. Et l'hôpital aussi va aussi avoir des économies parce que ça coûte pas cher un patient là, qui attend des soins chroniques. Alors tout ça, ça aide pas pour la fluidité hospitalière, intra-hospitalière. Donc je pense qu'il y a du travail à faire. Et les hôpitaux qui se débrouillent bien à Montréal, c'est les hôpitaux qui mettent des gens responsables de s'assurer que les patients ne perdent pas de temps à l'étage autant qu'on s'assure qu'ils ne perdent pas de temps à l'urgence.
Donnez-moi un exemple d'hôpital qui fait une bonne job.
Ben, si vous regardez, l'hôpital général juif a toujours fait beaucoup attention aux données. Ils ont été très forts en collecte de données, puis voir où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement dans l'urgence, mais aussi dans le reste de l'hôpital. Donc, en regardant les données, on s'attaque à là où ce qu'on trouve des goulots d'étranglement, puis ça donne des résultats. Parce que l'hôpital général juif a une très grosse urgence, un très gros hôpital, mais ils ont énormément de travail, fait qu'ils réussissent même s'ils débordent aussi, comme le reste des hôpitaux à Montréal, mais ils réussissent à tirer leur épingle du jeu pas mal mieux que la plupart des hôpitaux francophones. La Cité de la Santé fonctionne aussi très bien. C'est un hôpital un petit peu plus communautaire, mais ils sont justement plus capables d'avoir une meilleure gestion intra-hospitalière.
Pour prendre encore une fois une image, c'est comme si on aurait besoin d'un quart arrière dans les hôpitaux pour savoir
Absolument.
Où lancer le ballon.
Absolument. On a besoin de quelqu'un qui a un portrait d'ensemble, quelqu'un qui voit où est-ce que ça bloque et qui peut agir instantanément sur les endroits où ça bloque pour que ça roule bien.
Docteur Mathieu, c'est quoi la vie d'un patient 17 heures sur une civière à l'urgence?
Bien, vous savez, ça a l'air épouvantable, mais les patients, quand ils sont là, ils sont contents parce qu'ils ont les soins puis ils sentent qu'au moins ils sont pris en charge. Donc, c'est pas ces gens-là qui vont se plaindre. Hein? Les gens qui passent 24-48 heures sur les civières, ils sont un peu victimes des écueils du système, mais c'est pas eux qui se plaignent. c'est quand même paradoxal.
Mais qui se plaint? Moi, j'ai des travailleurs qui me disent, quand c'est cordé comme ça, quand ça déborde, quand la fréquentation est à 120-130%, on a de la misère à passer.
Ah ben oui, absolument. Nous, on trouve ça épouvantable. Les familles trouvent ça épouvantable aussi. Je pense que les familles souffrent de voir leurs proches dans des situations comme ça, parce qu'on parle en principalement de personnes âgées, souvent. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est des gens qui sont vulnérables, des gens qui vont justement rallonger leur durée de séjour parce qu'ils sont sur une civière 48 heures à l'urgence sans bouger. Et ça, on le sait très bien que chaque jour passé à l'urgence augmente la durée de séjour de 2 ou 3 ou même 5 jours à l'étage à chaque fois qu'ils passent un jour de plus à l'urgence.
Merci, docteur Mathieu. Bonne journée.
Alors, je vous remercie.
Au revoir. Au revoir. Docteur Bernard Mathieu, qui est urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
On s'en va complètement ailleurs. Monsieur Tesla, qui a décidé d'acheter Twitter pour 44 milliards, Elon Musk, a annoncé non seulement la transaction, mais aussi qu'il avait certaines idées, certaines priorités en tête. Je vais en parler avec Luc Dupont, qui est professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi Monsieur Musk tient-il à dépenser 44 milliards pour acheter Twitter?
Ben, c'est un grand utilisateur de la plateforme, plus de 80 millions de personnes qui le suivent. Il maîtrise très bien l'outil également. Bon, il a une espèce de fantasme, il voudrait créer la grande place publique sur laquelle on pourrait échanger des idées, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, également sur le plan culturel, et que pour passer à l'action, donc l'étape suivante, dans son esprit concrètement, ben, ça veut dire faire l'acquisition de Twitter, qui l'a payé, soit dit en passant, très cher, 44 milliards de dollars. À titre de comparaison, Instagram avait été vendu à Facebook il y a quelques années pour 1 milliard, et j'ai souvenir qu'on avait dit à l'époque, mais c'est complètement fou, 1 milliard pour un site de photos, éventuellement de vidéos également. YouTube, qui a été acheté par Google pour 1,6 milliard de dollars, là aussi, il y a quelques années, donc 44 milliards de dollars, c'est une fortune colossale. Il a mis 2/3 du montant, je le précise, de ses poches à lui, ce qui faisait dire à un observateur hier, j'ai trouvé ça très amusant, parce qu'il va devoir évidemment vendre des actions de Tesla pour financer l'opération, mais qui disait c'est comme échanger du caviar pour une pointe de pizza, la pointe de pizza étant Twitter dans ce cas-ci. Donc sur le plan monétaire, c'est une somme colossale. Sur le plan personnel, ben, ce qu'il va probablement s'apercevoir à l'usage, c'est que faire la police, en théorie, c'est facile. En pratique, c'est très difficile, donc il va prêter flanc à la critique. Imaginez, dans quelques mois, là, on va être dans les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et déjà, donc, il va avoir, à certains égards, le contrôle de tout ça. Remarquez qu'il a dit que pour éviter certains débordements, il va rendre public l'algorithme. Alors, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'expression, c'est un peu comme si on installait une caméra dans une salle de rédaction d'un journal. Mais soudainement, on va être capable de voir pourquoi je m'enferme dans telle nouvelle et pas dans telle autre nouvelle, pourquoi on parle de tel truc et pas de tel autre truc. Donc, sur ce plan-là, il y a plusieurs changements à venir.
Bon, mais justement, là, son comportement sur les plateformes n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'exemplaire. Là. Je me souviens de la photo d'Hitler en parlant de Justin Trudeau puis de la crise des camionneurs au Canada. Et en même temps, il nous dit qu'il veut laisser plus de liberté. Ça laisse entrevoir quoi, ça, pour l'avenir de Twitter?
C'est sûr que peu importe qui prend le contrôle d'une plateforme, ça pose toujours problème. Je pense à Bezos avec le Washington Post, qui est une institution. Mm-hmm. Bon, il a investi des millions de dollars là-dedans. Il a relevé littéralement le journal. Mais en même temps, sur le plan de la politique éditoriale, il faut reconnaître qu'il y a un petit virage. En tout cas, on est à 2 coins de rue de Washington. Là, on se comprend avec le Washington Post. Zuckerberg avec Facebook. Et lui aussi ne fait effectivement... Il prête parfois à la critique. Je le voyais en fin de semaine, vous l'avez peut-être vu rire de Bill Gates, du physique. Oui. De Bill Gates. Ça, c'est le genre de truc qui n'est pas nécessaire et qui nous rappelle qu'il y a un petit côté P.T. Barnum, hein? Pour toutes les qualités qu'il peut avoir. Après tout, si on parle de voiture électrique aujourd'hui, je lui donnerais une grande partie du bénéfice de ça. Je pense qu'on ne parlerait pas actuellement de voitures électriques si il n'avait pas pris éventuellement le contrôle de Tesla. Après tout, j'ai jamais vu d'establishment dire je ne veux plus être l'establishment. Je parle ici évidemment de Détroit ou de Tokyo. Mais effectivement, il a ces petits moments de débordement, mais totalement inutiles. Hein? Si si on gommait là, ces excès-là, je pense que... Et qui contribue aussi un peu à créer de la confusion, c'est qui Elon Musk? Et je crois, si je tentais une réponse ici, c'est un centriste. Et on est dans une époque où les centristes ne sont pas à la mode. Ce sont les extrémistes qui, dans les partis politiques, généralement, ont pris le contrôle. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai ailleurs dans le monde. Sur les médias sociaux, c'est un phénomène similaire qu'on peut observer. Et je crois qu'en rendant public l'algorithme, j'y reviens, là, qui peut sembler quelque chose de très technique, mais qui est absolument fondamental ici, et il va corriger une partie du problème. Au-delà de ça, ben, préparez-vous effectivement à toute une série de changements. Donc, l'algorithme qui va être ouvert, le bouton de correction de tweet qui enfin va arriver. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ça n'existe pas. C'est là sur LinkedIn, c'est là sur Facebook. La fin des comptes anonymes, une méchante bonne idée.
Ça veut dire que les œufs qui ont 43 000 tweets et 8 abonnés vont disparaître.
Oui, à moins qu'on décide de créer un Twitter à deux étages, un étage gratuit, alors le Far West qu'on connaît actuellement, et un étage payant, sans ces fameux comptes-là. Mais dans des entrevues, il a dit fréquemment, si je prends possession de Twitter ou si j'avais amélioré la plateforme, c'est le premier, en fait, geste que je poserais. Et n'importe qui est sur Twitter a constaté avec le temps que la plupart des remarques, disons, désobligeantes, pour utiliser un terme poli, sont généralement l'œuvre de gens qui sont pas dûment identifiés. Donc, vous serez jamais capable, de quelque façon que ce soit, de les ramener à l'ordre, parce que vous n'êtes pas capable carrément de les pointer du doigt. L'autre truc, ben, c'est la révision de la politique éditoriale de Twitter. Et ça c'est un travail, ne serait-ce que ça, c'est un chantier de plusieurs mois, pour ne pas dire quelques années. Alors, ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer, je vous rappelle que le Kremlin, au moment où on se parle, a toujours un compte sur Twitter. Alors, il faut m'expliquer ça. Les talibans ont toujours un compte sur Twitter, ben il faut m'expliquer ça. Aussi. Alors, il va devoir standardiser ça dans un contexte, je le rappelle, qui n'est pas facile, à deux coins de rue de la campagne électorale de mi-mandat aux États-Unis. L'autre truc qu'il a dit, c'est pas de publicité. Ou c'est pas mon élément clé là, pour rentabiliser l'opération. Ben là, moi, je dirais... Là, c'est moi ici qui dis ça. À 44 milliards, il va avoir la publicité. C'est ce que je soupçonne. Et l'autre truc qu'on ne voit pas venir, et là, il racontait ça à un moment donné dans une entrevue, je me tapais quelques-unes de ses entrevues en fin de semaine sur YouTube, on lui demandait à un moment donné, c'est quoi la faiblesse de Twitter par rapport aux autres plateformes? Et sa réponse est extrêmement simple. Il dit, visuellement, on n'est pas fort sur le plan des images, des vidéos. Alors moi, ce que je vous annoncerais, c'est ma petite prédiction ici, c'est que les images et les vidéos vont prendre de plus en plus de place. Donc, il va s'inspirer de TikTok, il va s'inspirer également d'Instagram et à certains égards de Facebook là-dessus. Et dernier grand changement, numéro 7, c'est que je serais étonné si certains services à la pièce ne deviendraient pas payants. Alors, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Twitter a acheté Revue, qui est une plateforme qui permet de faire des infolettres. Très, très bien fait, je dois dire. Alors, pour l'instant, cette plateforme-là est gratuite. Je suis convaincu que dans quelques mois, elle sera payante.
Faudra bien rentabiliser le 44 milliards d'investissement.
Effectivement. Alors, à hauteur, je le rappelle, deux tiers, c'est sous à lui, puis un tiers, les sous des investisseurs, qui, eux, nécessairement, vont demander un retour sur l'investissement.
Parfait. Merci, M. Dupont. Bonne journée.
Un plaisir.
Au revoir. Luc Dupont est professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa.
Voici Paul Arcand.
Ah, j'avais hâte de t'entendre sur cette grosse transaction. Monsieur Musk, Elon de son prénom, qui achète Twitter pour 44 milliards.
Seulement.
Ah. C'est quoi, 300 fois les profits?
Oh, c'est plus que ça, parce que des profits, il n'y en a pas.
OK.
Les profits de la dernière année, en 2021, il n'y en avait pas. Et donc, il achète, dans le fond, le potentiel. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que Twitter... Paul, il veut se servir de ça comme un outil de liberté et de démocratie. De l'autre côté, il vend des voitures électriques. Et il veut vendre des voitures électriques dans le monde. Donc, imagine-toi la situation où est-ce que tu t'en vas en Chine promouvoir la liberté d'expression en étant le patron de Twitter et en même temps, en voulant vendre des autos. Tu as besoin de l'aide des États pour qu'on t'aide à promouvoir et ton modèle de liberté d'expression et ton modèle de vente de voitures. Alors, est-ce que ton idéalisme sera un jour en confrontation avec ton réalisme de chef d'entreprise de voitures électriques dans un des plus gros marchés mondiaux, c'est-à-dire la Chine? C'est possible. L'autre point qui est intéressant, c'est que les gens disent « Pourquoi? » Le conseil d'administration, il n'y a pas longtemps, a dit qu'il ne voulait rien savoir d'Elon Musk, puis tout d'un coup, changement de cap. Ben, le rôle d'un conseil d'administration, c'est oui... d'assurer la pérennité de l'entreprise puis sa valeur et tout ça, mais c'est aussi de représenter les actionnaires et de donner la meilleure valeur aux actionnaires. Tu joues le rôle de représentant maison dans l'entreprise de l'actionnaire. Et donc, si quelqu'un arrive avec une offre hostile et t'offre un chèque tellement gros que comme conseil d'administration, tu juges que ça vaut plus que ce que tu es capable de générer avec l'avenir de la compagnie, ben tu es obligé de regarder les actionnaires et leur dire qu'on aime ou pas la personne, de votre côté à vous, dans vos intérêts et dans l'intérêt de l'entreprise, il amène tellement de cash qu'on va vous dire de dire oui. Et pourquoi on dit pas oui au premier abord? C'est parce qu'on se dit on va regarder si on a d'autres options. Et là, c'est bruit de criquet. Personne veut dire « Hey, je veux rentrer dans une offre d'achat hostile en concurrence avec Elon Musk pour faire de la surenchère sur une entreprise qui fait pas encore de l'argent, vraiment. »
Mais c'est parce que, tu sais, je comprends d'investir dans le potentiel, mais c'est toujours bien 44 milliards.
Oui, écoute, dire... oui, mais pour lui, c'est ouais. Ça l'affaire. Mettons, Paul, je te dis, prends moins de 10% de tous les avoirs que tu as et risque-les. Est-ce que c'est un pari qui t'intéresse? Alors, c'est ça pour lui. C'est que lui investit 21 milliards, endette le reste, a peut-être un lapin dans son chapeau, et c'est ça qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Twitter? Est-ce qu'il y a un plan d'intégration avec Tesla? Est-ce qu'il y a un plan de diffusion d'événements en ligne? Est-ce qu'il y a un plan de créer une plateforme parallèle avec une concurrence des réseaux de télévision? On ne sait pas où est-ce qu'il s'en va avec ça. Il y a peut-être un potentiel, mais il veut peut-être juste aussi, avec les 221 millions de pertes de l'entreprise de l'an dernier, juste montrer qu'il est puissant et qu'il veut faire son point. C'est peut-être ça aussi.
Ça s'appelle de l'ego.
Mais ça s'appelle avoir les moyens de son ego. C'est ça qui est fou. C'est que tu te dis, ce gars-là a réussi parce que dans le monde d'aujourd'hui, les propriétaires de grandes techno, on leur a permis de faire une chose, c'est-à-dire d'accumuler de la valeur boursière extrêmement élevée parce qu'on achète le potentiel. Tu sais, Walmart, par exemple, ou Costco, ou d'autres entreprises comme ça, ont grandi de façon organique, lentement, démontrant des marges et tout ça. Tesla et autres, c'est différent. C'est on achète le potentiel de faire un coup d'argent futur, mais quand tu es l'actionnaire principal de ça, tu ramasses, tu passes à go tout de suite, et donc tu vas capter les profits de générations d'avant de toi immédiatement dans la valeur, dans l'évaluation. Et parce que c'est comme ça la valeur d'une entreprise, mais plus tu es technologique, plus ton actualisation est basée sur une croissance. Et donc, c'est ça qui est fou, c'est que il y a des gens, si vous regardez les 10 personnes les plus riches dans le palmarès Bloomberg des milliardaires, ce sont des gens, des technos majoritairement, qui se sont bâtis dans les deux dernières décennies. C'est fascinant pour eux. C'est épeurant en même temps.
Parle-moi maintenant des régimes d'épargne-études, des REER, CELI, lequel choisir?
Mais c'est ça, c'est que là, on est rendu à un point tournant de la fiscalité canadienne où est-ce que si tu cumules le REE, le REER, le CELI app, la nouvelle affaire pour s'acheter une maison, et le CELI, les gens ne pourront pas contribuer à tout ça. T'sais, avant, il y avait le REER, c'était simple, là, il y en a trop. Alors, c'est quoi l'ordre? Mais l'ordre, c'est commencer par te dire, le CELI app, là, le CELI pour l'achat d'une première propriété, doit être priorisé sur le REER. Pour les jeunes, c'est pas compliqué. Si jamais tu ne te sers pas du CELI app, ça s'en va dans le REER. Donc, tu commences toujours par le CELI app. Mais encore là, si jamais tu as un faible revenu en début de vie parce que tu vis chez tes parents, tu gagnes 18 000 par année, va pas déduire tout de suite de l'argent fiscalement. Tu peux peut-être contribuer à ton CELI d'abord et après ça, utiliser le CELI app et après ça, le REER. Et le jour où tes enfants naissent, ben là, le REER, c'est sûr que c'est un no-brainer parce que c'est un fractionnement de revenus. Alors, la question ici est, comment prioriser? Y a-t-il un ordre précis pour tous les contribuables? La réponse, c'est non. Mais une chose qui est certaine, c'est que le REER tout seul, le bon vieux REER de Jean Lapointe, et parlez-moi d'un REER des années 90, ben, il est moins intéressant que les trois autres au niveau de la planification long terme, mais il est encore là, c'est encore intéressant. Mais le REER est intéressant sur une chose, votre taux d'imposition marginal lorsque vous déduisez est plus grand que lorsque vous allez retirer. Alors, si vous êtes dans un niveau de revenu qui est inférieur à ça, les trois autres instruments sont beaucoup plus intéressants à prime abord. Mais il faut se faire conseiller. Et c'est là que je dis aux gens, vous n'arriverez pas à contribuer aux quatre. Là, oubliez ça, ça se peut juste pas, à moins que vous fassiez des revenus très élevés puis que vous dites, je vais consacrer une grande partie de mes économies à l'épargne. Mais sinon, il va falloir se faire un plan. un arbre de décision. Bon, je commence par quoi? Comme dans un jeu de 500. Tu sais, quand tu joues le 500, je commence-tu par mon cœur, mon atout, mon pic, mon bonhomme? Ben, c'est un peu la même affaire. C'est que le gouvernement t'a donné tellement de cartes fiscales qu'il va te dire maintenant, choisis selon tes besoins et tes objectifs. Mais c'est certain qu'avoir une maison pour faire des enfants, c'est rendu comme un avantage incitatif à se faire aider par le gouvernement.
Une planification fiscale.
Exact.
Et familiale. Merci familiale. Beaucoup.
Salut.
Salut.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.